Bonsoir et bon début de semaine à tous. Après une année à la tête de la présidence de l'Union africaine, le président congolais Félix Tshisekedi a passé le flambeau à son homologue sénégalais Macky Sall qui lui succède à la tête de cette organisation panafricaine. Prenant tour à tour la parole au siège de l'Union africaine à Addis Abeba samedi 5 février dernier, les deux présidents ont reconnu certaines avancées de l'Union africaine dans le secteur notamment des développements, de la santé et de l'intégration régionale. Cependant, ils reconnaissent tous que les défis restent nombreux et pressants, entre autres la paix et la sécurité, les changements anticonstitutionnels à la tête des pays, la sécurité alimentaire, l'éducation des jeunes et la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Quelle analyse faire des progrès réalisés et des défis actuels de l'Union africaine? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 7 février 2022. Participe au débat professeur Albert Maloukissar, professeur à l'Université catholique du Congo et chercheur au groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Professeur Albert Maloukissar, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités, instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Professeur Dadi Salé, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et le professeur Jean-Claude Chilumbaï, professeur en relations internationales et en droit international public à l'Université de Kinshasa, à l'Université catholique du Congo. Professeur Jean-Claude Chilumbaï, bonsoir.
Bonsoir madame, je salue le Daïm Aloukissa, je salue le professeur.
Vous êtes très nombreux auditeurs de Radio Capi à nous envoyer vos réactions. C'est le cas des Blaise Émile Mouama à Goma dans la province du Nord Kivu. Sans les moyens conséquents, l'Union africaine ne sera jamais au service des Africains et les défis resteront immenses et insolubles. L'Afrique devrait repenser comment assurer l'indépendance financière et économique de l'Union africaine sans laquelle tout restera illusion car la main qui donne, c'est la main qui dirige en vue de résorber les défis de notre ère. Sonny César Benjamin, depuis Arihuara, dans la province de l'Ituri, à mon avis, le but primordial de la création de l'Union africaine est la mutualisation des forces afin de mettre fin à l'insécurité qui frappe certains pays africains. En effet, sans la paix, pas d'éducation, des commerces, ni politique. Aucun président n'a encore fait cela. Toute personne qui entre ne cherche que l'honneur au lieu de penser à la vie du peuple africain. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et pour vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez nous rejoindre sur www.radiocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le président du Sénégal a pris samedi 5 février la tête de l'Union africaine lors de la 35e conférence ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine à Addis Abeba. Lors de son allocution, le président Macky Sall a salué le travail de Félix Tshisekedi durant son mandat à la tête de l'Union africaine. Devant ses pairs africains, Macky Sall a affirmé que Félix Tshisekedi s'est acquitté de sa tâche de président de l'Union africaine avec constance et dévouement. S'adressant singulièrement au président congolais, le président sénégalais a déclaré « Merci Félix pour les efforts considérables que tu as consacrés à notre continent ». Plus de détails avec Noëlla Louzitou.
Le nouveau président de l'Union africaine, le président sénégalais, a remercié ses pairs pour leur confiance en lui. Il a également rendu hommage au père fondateur de l'organisation panafricaine. Macky Sall a salué certaines avancées de l'UA dans les secteurs notamment de développement, de la santé et de l'intégration régionale. Il a cité à titre illustratif la matérialisation de la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF, et la riposte coordonnée des pays africains contre la pandémie de la COVID-19. Cependant, les défis restent nombreux et pressants à relever le président sénégalais, parmi lesquels la paix, la sécurité, des changements anticonstitutionnels à la tête des pays, la sécurité alimentaire, l'éducation des jeunes, la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles, ainsi que l'accès équitable aux financements internationaux, a noté le nouveau président de l'Union africaine.
Merci Noël Luzitu Kabambi pour tous ces détails. Professeur Albert Maloukissa, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo et chercheur au groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Avant de parler des progrès et défis de l'Union africaine, un mot sur le bilan du mandat du président Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, mandat qui a été placé sous les auspices du patrimoine de l'art et de la culture africaine.
Merci pour la question. Je disais écoutez, pour la République démocratique du Congo, vous savez, c'était quand même une grande nouvelle pour nous de voir le président Tshisekedi à la tête de cette union. Mais vous savez, l'Union africaine a beaucoup de faiblesses. D'abord, d'ailleurs, les auditeurs en parlaient il n'y a pas longtemps. Le plus grand souci avec l'organisation, c'est avant tout sa faible capacité d'autonomie financière. L'Union africaine dépend essentiellement des grands bailleurs, des grandes puissances. Et les États de l'Union africaine ont des sérieux problèmes sur le plan socio-économique. C'est des États qui ont des grands déficits budgétaires. C'est des États très fragiles financièrement. Donc, nous manquons de ressources pour être maîtres de notre sort, de notre avenir. Et Tshisekedi est arrivé à la tête de cette union, mais en fait, je ne vois pas ce qu'il y a eu comme un changement majeur. L'organisation continue à éprouver les mêmes difficultés et pour les cas du Congo, par exemple, notre préoccupation majeure, c'était et demeure la fin de la guerre à l'est du pays, les conflits armés. Mais bon, jusqu'à présent, on n'a pas gagné grand-chose. Hein. On n'a pas vu des contingents africains débarquer au Congo pour soutenir le gouvernement congolais. Beaucoup de pays qui étaient relativement stables ont connu pas mal de conflits aussi. Les coups d'État refont surface comme si on était encore à l'époque des années 70. Le vécu quotidien des peuples africains était toujours marqué par une pauvreté extrême. Donc, tout ce qu'on présente diplomatiquement dans les salons officiels, dans les discours officiels, ne rencontre pas la situation qu'on est en train de vivre sur le terrain. L'Afrique, c'est la pauvreté des masses. L'Afrique, c'est des infrastructures de base en très mauvais état. L'Afrique, c'est un continent qui n'attire pas suffisamment d'investisseurs pour que l'on puisse décoller. Même la RDC n'est pas parmi les pays considérés comme élève modèle en matière de contribution au niveau de l'Union africaine.
Professeur Maloukissa, comment vous répondez à ceux qui disent que l'Union africaine était plongée dans la routine et la présidence de Félix Tshisekedi a donné une nouvelle dynamique à la commission de l'Union africaine?
Non, moi je suis d'avis contraire. Je suis d'avis contraire parce que ce dynamisme-là doit se faire sentir à partir du moment où vous disposez des moyens de votre politique. Comme je vous l'ai fait remarquer, l'Union africaine, c'est un... Regardez, le budget de l'Union africaine, si mes souvenirs sont encore bons, en 2018, le budget de fonctionnement de l'Union africaine était de l'ordre de 800 millions de dollars américains. Avec 800 millions de dollars américains, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer fondamentalement le vécu quotidien des peuples? Et qui contribue à l'Union africaine? Même la RDC accuse beaucoup d'arriérés, comme je disais. Qui contribue pour le fonctionnement de l'Union africaine? Il y a l'Égypte, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a le Nigeria. Beaucoup de pays ne s'acquittent même pas de leur contribution comme il le faut. À partir de ce moment-là, c'est normal que l'organisation se retrouve en face de difficultés qu'elle ne saura pas du tout résoudre. Et il faut dépendre des grandes, il faut dépendre des grandes puissances. Et ces grandes puissances ont leurs intérêts. Donc, ils vous accompagnent en fonction de leur propre agenda et qui ne peut pas nécessairement rencontrer les attentes aussi des peuples africains. Et c'est le même dynamisme qu'on a observé depuis la décolonisation. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas eu des avancées significatives avec Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine.
Lors de sa prise de fonction, le président Macky Sall a salué certaines avancées de l'Union africaine dans les secteurs notamment des développements, de la santé et de l'intégration régionale. Il a cité à titre illustratif la matérialisation de la zone de libre-échange continentale africaine.
Oui, mais le libre-échange, madame, qui peut profiter du libre-échange? D'abord, c'est des États africains qui ont des industries. ou qui ont un grand potentiel dans ces domaines-là. Regardez les Congos, on n'a pas un tissu industriel digne de ces noms. Donc, qui peut profiter de l'abondance des pays africains qui ont des petites et moyennes industries ou quelques grandes industries qui peuvent exporter facilement chez nous. Et nous devons exporter quoi? Comme d'habitude, ça sera toujours des matières premières, ça sera toujours des produits agricoles. Mais la valeur ajoutée, c'est dans les secteurs industriels. Le libre-échange, ça peut être bon pour certains pays et mauvais pour d'autres pays. Donc chaque pays doit chercher à voir, examiner effectivement sa situation pour voir s'il faut vraiment s'engager véritablement sur cette piste. Qui gagne, qui perd? Les développements, mais est-ce qu'on nous a donné, est-ce que ce discours est quantifié, madame? C'est pas quantifié. Combien d'écoles on a construit? Combien d'hôpitaux on a construit? Combien de kilomètres de routes on a construit parce qu'on est dans l'Union africaine? Des routes qui doivent permettre une bonne circulation des personnes et des biens, des échanges économiques. Combien de kilomètres de voies ferrées on a pu construire? Ça, c'est le discours des diplomates ou des discours diplomatiques, mais madame, sur le terrain, la population africaine n'a pas bénéficié de grand-chose.
Dans le domaine de la santé, par exemple, professeur Albert Maloukissa, est-ce que il ne faudrait pas saluer la riposte coordonnée des pays africains contre la pandémie de la COVID-19, comme l'a souligné le président Macky Sall?
Mais madame, vous savez, probablement il y a d'autres explications pour expliquer le fait que l'Afrique n'a pas été si affectée par le COVID-19. Mais regardez dans quelles conditions nous évoluons au Congo et dans d'autres pays africains, c'est pas similaire. Beaucoup de gens ne croient même pas que le coronavirus existe. On ne respecte pas les gestes barrières. Les pays ont dépensé combien? Nos pays ont mobilisé combien en termes de financement pour faire face à cette pandémie? De mon point de vue, ce qui s'est passé avec le coronavirus, c'était un buffet du climat ou d'autres facteurs liés à notre continent, ont été épargnés dans une large mesure des virus. Et en plus, notre population est très jeune. Et c'est ce qui fait que le corona nous a moins affectés. Mais on ne peut pas parler véritablement des politiques publiques qui ont réussi à nous préserver dans une large mesure de contamination.
Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, professeur en relations internationales et en droit international public à l'Université de Kinshasa et à l'Université catholique du Congo. Professeur, un mot sur le mandat de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine.
Bonjour madame, je salue le doyen Maloukissa. Je crois que nous parlons tous deux de l'Université catholique au Congo. Le mandat du président Tshisekedi, il a été apprécié par le président Macky Sall à sa juste valeur. D'abord, faut dire que la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a et que c'est cette Afrique que le président Tshisekedi a dirigé dans sa condition actuelle avec une grande ambition. C'était de voir revenir une Afrique du peuple, plutôt une Afrique des peuples qui a été consacrée par la constitution de l'Union africaine, contrairement à la vieille charte de l'OIA, et que ce principe de participation des peuples aux travaux de l'Union africaine n'a malheureusement été qu'un slogan dans la réalisation. Il est difficile pour le moment que l'on vérifie et que l'on apprécie un bilan par rapport à ça. C'est déjà une difficulté parce que le fameux Parlement panafricain qui devrait en être la matérialité n'est en réalité pas un organe efficace au service de cette Union africaine. L'autre innovation qui permettrait que l'on apprécie le mandat du chef de l'État, on a parlé là des coups d'État, 4 coups d'État, il faut dire que l'Union africaine dans son architecture n'a pas mis en place des moyens pour, par exemple, empêcher qu'un coup d'État se commette et imputer cela à un mandat d'un chef, d'un président passager d'une année. Ça peut être aussi moins honnête parce que lorsque vous lisez à l'article 30 de l'acte constitutif, les pères fondateurs de l'Union africaine sont contentés de faire allusion à la non-reconnaissance des changements anticonstitutionnels de gouvernement. On ne parle même pas d'antidémocratique. Je me souviens d'un article célèbre du professeur Boulaboula qui était tant revenu sur cette question. Mais là, lorsqu'il y a un coup d'État qui se prépare, il est la résultante des ingrédients internes d'un État, et chaque État ayant sa constitution et n'étant lié par d'autres États en la matière de démocratie par aucun principe contraignant actuellement au sein de l'Union africaine, il est difficile que ce soit un élément d'appréciation du mandat. Il y a la question de l'intervention, comme le doyen Maloukissa dit par exemple que les troupes de l'Union africaine auraient dû intervenir au Congo pour mettre fin à la guerre, probablement un principe qui a été écarté lors des discussions de la charte de l'acte constitutif de l'Union africaine à Sirte. On s'est juste contenté de consacrer un droit pour l'Union africaine d'intervenir sur le territoire d'un État en cas de certaines circonstances graves, et on les a limitativement énumérées, le crime de guerre, le crime de génocide et le crime contre l'humanité. Cela étant entendu qu'il était difficile de considérer par exemple les conflits de faible intensité et de guerre civile ou encore des putsch militaires intervenus comme des éléments devant faire ou pouvant donner lieu à l'intervention militaire de l'Union africaine.
Est-ce qu'on peut parler de faiblesse de la charte, professeur Tshilumbayi?
Bien sûr, moi j'ai toujours dit que l'Union africaine c'est un mort-né. C'est une organisation de transition. Il faut donner à l'Afrique une organisation à la pointe des civilisations et à la hauteur de ce que désire le cœur et l'esprit des peuples africains. Si vous regardez bien, nous sommes dans une situation hybride, un hybridisme déconcertant qui ne permettra jamais à l'Union africaine d'être le canalisateur de vision ou des aspirations africaines. Et on est parti de l'OUA, qui était une organisation interétatique et purement politique, à l'Union africaine, dans un mimétisme institutionnel autrement bâtard. Lorsque on parle de l'Union africaine, mais lorsque vous regardez, la conférence des chefs d'État reste l'organe souverain qui ressemble à ce club d'amis qu'on a toujours dénoncé. Nous n'avons pas vu avancer l'idée de supranationalité qui était attendue pour véritablement ressembler à l'Union européenne. L'Union africaine n'a pas un projet de loi d'une ossature institutionnelle et législative panafricaine. C'est plutôt encore ce club où, malgré tout ce que vous faites, c'est plutôt la volonté, les aspirations des chefs d'État, lesquels ne sont pas arrivés au pouvoir suivant les mêmes modalités, voici, et la démocratie n'étant pas uniforme.
À quoi elle sert finalement, si vous dénoncez tout cela, professeur Tshilumbayi, à quoi elle sert cette organisation panafricaine?
Elle sert encore d'une tribune qui peut recevoir les doléances et devant laquelle les États peuvent quand même encore exprimer leurs desiderata et tenter de communiquer leur position à travers le monde, parce que même l'unité culturelle, vous voyez, notre mandat avait été fondé essentiellement sur la culture. En Europe, cette culture est là des soubassements plus ou moins homogènes, en commençant par la judéo-chrétienté qui en est l'idéologie, mais aussi elle passe par l'uniformisation de ses valeurs culturelles autour des régimes tout plus ou moins démocratiques avec les mêmes principes, ce qui n'est pas le cas à ce jour en Afrique, pour penser que la culture pouvait être le moteur de la constitution ou de la construction africaine. Au plan économique, le bilan, il est un bilan important. Le président de la République a fait montre d'un leadership suffisamment conducteur pour que l'on pense au retour de cette Union africaine qui était devenue tout simplement un chantre de quelques valeurs enfouies dans les traditions de l'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on a parlé de la ZECAF qui a été construite dans les conditions que l'on connaît, qui n'a pas suivi un cursus stabilisateur, dans ce sens que on a mis la charrue avant le bœuf. Il y a un problème de ces frontières qui reste toujours fermé, des équilibres et un cadre pouvant être la conjugaison des marchés communs ou plutôt favoriser le séjour, le déplacement, la circulation des personnes et des biens à l'intérieur des États tout comme à l'extérieur. Ce ne sont pas encore des réalités. Je m'interroge moi souvent comment ce serait possible que l'on parle de la zone de libre-échange et que ce libre-échangisme se fonde sur des frontières hermétiquement fermées, qu'il se fonde sur des sociétés qui ne se côtoient pas, qui ne se connaissent pas, là où les populations n'ont pas encore la possibilité de circuler librement, c'est bien. C'est une dénomination, mais schématiquement, scientifiquement et matériellement, la ZECAF n'est pas à ce jour une zone de libre-échange. Donc tous ces ingrédients sont bien en place pour être des pesanteurs qui font que l'on ne s'attende vraiment pas à un bilan qui soit un bilan et le jeu, quel que soit le nom du président qui pourrait passer à la tête de l'Union africaine, encore que les fonctions du président de l'Union africaine sont des fonctions tout simplement protocolaires et que les décisions de l'Union africaine n'ont aucun cadre contraignant d'exécution.
Alors très rapidement, professeur Tshilumbayi, comment vous répondez à toutes ces personnes qui pensent que l'Union africaine manque de dirigeants à la vision réellement panafricaine?
Non. Le tout peuple, comme on dit, n'a que des dirigeants qu'il mérite. Les dirigeants de l'Union africaine, c'est des dirigeants qui sont assis sur l'acte constitutif. Ils n'ont pas à se substituer aux États membres de l'Union, qui sont des États souverains à souhait, qui ont refusé toute possibilité de céder une once de leur souveraineté à l'organisation, qui n'est du tout pas une organisation panafricaine comme on le prétend, c'est une organisation interafricaine. Et donc, les présidents de l'Union africaine sont des personnes qui consolident une certaine morale, un certain vouloir vivre ensemble sur le continent, mais qui n'ont pas qui n'ont pas la balance, qui n'ont même pas l'épée. Ça signifie que ça ne peut qu'être démoralisateur. Il est donc difficile d'imputer à un mandat d'un président les événements comme les coups d'État, comme d'autres événements qui surviennent dans nos États respectifs.
Merci.
Parce qu'on ne lui a pas donné des moyens conséquents. Qui qu'il soit, il n'y aura aucun président qui apporterait des résultats conséquents. Vous savez, par exemple, pour le mandat du président Kagame, on a parlé de cette taxe qui allait couvrir les déficits en financement de l'Union africaine. Et après, tout le monde s'est réalisé que ce n'était pas du tout une réforme, ce n'était qu'un slogan comme d'habitude dans cette organisation qui n'a pas de vertu contraignante. Voilà.
Professeur Dadi Saleh, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités, instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Vous allez placer aussi un mot, hein, comme je l'ai demandé aux autres, sur le mandat de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Quel bilan vous en dressez?
Merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas répéter mes co-débatteurs, le doyen, le professeur Albert et le professeur Jean-Claude. Alors, pour ne pas le répéter, j'aimerais préciser qu'effectivement, le président de la République lui-même a reconnu plusieurs échecs et il a reconnu, selon lui, des avancées, plus dans les secteurs diplomatiques où il cite des efforts. Effectivement, par exemple, pour la diplomatie, pour la présence d'acteurs, pour cet accompagnement, n'est pas discuté. Donc, il a été présent. Effectivement, il a effectué beaucoup de voyages. Donc, nous pouvons être d'accord qu'en effectuant beaucoup de voyages, il a été présent. Il a démontré probablement l'intérêt légitime de l'Afrique. Parce que la diplomatie, c'est très bien. Mais l'Union africaine a des objectifs assez clairs. Et il faudra que les Africains puissent en bénéficier. Et tout le peuple africain et les individus qui sont en Afrique. Donc, sur le plan institutionnel, pas assez de réformes, il n'y a pas assez d'avancées hein, sur l'effectivité, par exemple, de la justice et des droits de l'homme, il n'y a pas assez d'avancées sur beaucoup d'initiatives en termes de développement. Là, on n'est pas d'accord avec Vatican, on prend l'ODD, hein, on prend tout ce qu'on peut avoir comme indice, nous sommes pratiquement dans les rouges, surtout en Afrique, sur le plan de la malnutrition, sur le plan de la santé. Pratiquement tous les plans et l'insécurité, on en parle pas. Donc pour moi, c'est vrai que le bilan est largement négatif. Il ne manque pas de petits points. Mais il faut reconnaître, comme un de mes prédécesseurs vient de le dire, ça va, quel est le mandat et le mandat du président de l'Union africaine? Quel est l'objectif de l'Union africaine? Donc je pense pour moi, il faut bien noter qu'il faut changer la structure de l'Union africaine pour une pensée africaine. Mon co-débatteur vient de le dire, apparemment on a un conglomérat, c'est le terme un peu fort, ça va, une organisation inter-africaine. C'est le président et certains leaders qui essaient de se protéger. On n'a pas vraiment un intérêt panafricain dans le vrai sens du mot quand on lit et on voit tout ce que l'Union africaine fait. Donc, avec cet esprit Kouchitegemea, avec Tomilou qui est là, c'est prendre en charge, ça ne reflète absolument pas ce qui se passe dans l'Union africaine. L'économie reste extravertie en Afrique en grande partie. Donc, il n'y a pas des efforts pour ça. On constate effectivement que le leadership africain et de l'Union africaine est trop faible. Les leaderships de l'Union africaine et de l'Union africaine est trop faible. Donc, c'est-à-dire qu'on sent que, comme on a dit les clubs d'amis, certains qui le pouvoir par l'État, d'autres par les moyens, ils ont 50 ans, 20 ans, ils vont au pouvoir. Donc, on les comprend, ils essaient de se protéger. Donc, on ne change pas les leaderships africains dans l'Union africaine. Je pense qu'on est en train de tourner en rond, comme nos co-débatteurs les disent, et ça devient pratiquement, excusez le mot fort, inutile. Donc l'Union africaine devient un aspect inutile.
Lorsque vous dites par exemple, professeur Dadi Salé, que l'Union africaine est comme un syndicat des chefs d'État, c'est vrai qu'on l'a toujours décrit comme un syndicat des chefs d'État essentiellement préoccupés à couvrir les dérives des uns et des autres. Mais est-ce que cela n'a pas changé depuis Est-ce que ça continue?
Malheureusement, non. Le président de la République, Félix Tshisekedi, en félicitant en passant, il n'est pas arrivé à cet objectif. Je pense qu'il a fait une continuité. Une continuité, donc, qui n'a pas été ambitieux. Donc, je pense qu'il a manqué d'ambition forte pour l'intérêt du peuple africain. Donc, il a fait cette continuité où on fait un peu de show. De moi, on est dans des réunions un peu partout. On donne des bonnes intentions. On aimerait faire cela. Il y a beaucoup d'étudiants. Si vous prenez, par exemple, les objectifs et domaines prioritaires de l'agenda 2063 pour l'Union africaine, c'est formidable. Franchement, dans les sens des textes, c'est formidable. Il y a beaucoup d'articles. On doit arriver à éradiquer la pauvreté. On doit arriver à avoir un peu la sécurité. On doit. Et je ne sais pas si on prend la tête de l'Union africaine pour en sortir avec encore plus d'ambition. Moi, je pensais qu'on devait prendre la tête de l'Union africaine, mais pas pour réaliser les ambitions. Ce qui ne semble pas être le cas, c'est que l'Union africaine existe. Raison pour laquelle j'ai dit, ça semble être un outil un peu inutile. Tenez, madame, est-ce que l'Union africaine a le moyen de situation? Le professeur Albert Ledoyen l'a bien dit, un budget de 800 millions, on n'a pas d'armée, il n'y a pas de dissuasion dans les sens économiques ni financiers. Mais alors, un organe aussi important qui n'a pas de dissuasion, ça fait la quoi? On sait les équipements que le monde, c'est un monde des rapports de force, surtout pour les États. Chaque État voit qu'est-ce que je gagne. Il n'y a aucune dissuasion par rapport à l'Union africaine, comme vous avez bien dit. Et tout le monde est État en cascade. Mais bien, qu'est-ce que l'Union africaine peut en faire? Rien. Ni dissuasion militaire, ni argent, rien que des déclarations. Parce qu'au fond, on n'a pas peur de l'Union africaine. Ça ne sert presque à rien. Au fond, le mot est lourd, mais c'est la réalité. Nous ne voyons absolument pas les intérêts directs, pas indirects. Parce que comme je l'ai dit, on va faire des bouts pour la santé, etc. Non, le professeur Ledoyen l'a bien dit. Qu'est-ce qui s'est amélioré par rapport à la santé? Qu'est-ce qui s'est amélioré par rapport aux finances, aux banques africaines? Qu'est-ce qui s'est amélioré par rapport à cette économie dont on parle structurelle, doit se transformer? Quel est le citoyen africain qui s'est amélioré dans sa pensée plutôt qu'avoir cette politique extraverse? Parce que vous viendrez avec moi, même tous les gros marchés de l'Afrique et de la République démocratique du Congo particulièrement, non, ces gros marchés sont octroyés aux entreprises étrangères et aux étrangers.
Merci.
Donc c'est un peu comme si nous ne croyons pas en nous-mêmes. Il n'y a pas de panafricanisme dans l'Union africaine. Alors franchement, le vrai mot, c'est tout simplement de demander l'Union africaine, elle a quoi? Est-ce qu'on ne devait pas passer par cette voie-là des États-Unis d'Afrique plutôt que continuer à garder un organe prestigieux, certes, on est d'accord, mais qui ne sert à rien? Est-ce que l'Union africaine a atteint même 20%? Non. Alors, on est tous des enseignants, à moins de 20%, on est renvoyés de l'école. C'est tout. Donc,
professeur,
ça n'a rien fait.
Professeur Dadi Salé, merci beaucoup. On va vous redonner la parole. Le temps pour nous de prendre ces auditeurs qui sont très nombreux à nous appeler pour réagir aussi au thème de ce soir. Professeur Albert Maloukissa, on va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa.
Junior Bompongo, à partir de la vieille province de Kinshasa. Le défi majeur reste l'irruption des coups d'État de ces derniers mois en Afrique, qui doit faire réfléchir à deux fois l'Union africaine sur ce qu'elle attend faire dans l'accélération du processus de démocratisation, car il se peut que la pratique démocratique et la gouvernance seraient à la base en dépit de la distance qui existe entre l'intention et la réalité pour l'unité réelle des pays africains. Par ailleurs, notons que la présidence de la RDC à l'Union africaine, bien qu'elle soit saluée par les pairs, elle reste la plus sombre que l'Afrique ait connue diplomatiquement parlant, car aucune crise n'a été résolue. Bien au contraire, elle a amplifié les coups d'État sans moindre mesure de les dissuader. La crise éthiopienne et le Tigré reste un échec que l'histoire retiendra de la présidence de la RDC au sein de l'Union africaine. N'en parlons plus de la guerre de l'Est qui m'a laissé à ma soif.
Professeur Maloukissa, brève réaction sur le point de vue de cet auditeur qui nous a appelé depuis Kinshasa.
Merci madame, merci à Bongongo pour sa pertinente question. Je salue en passant les profs Chilombay et les profs Salé et je pense que nous avions une convergence de vues sur la question de l'Union africaine. Les coups d'État en Afrique, madame, ça traduit d'abord le fait que la démocratie tant vantée ne produit pas véritablement ses effets. Si la démocratie fonctionnait correctement, si il y avait effectivement des vrais vainqueurs des élections en Afrique, des personnes revêtues de légitimité, les coups d'État n'allaient pas avoir leur sens. En fait, ces coups d'État nous révèlent des problèmes que nous rencontrons dans notre démocratie, dans notre parcours démocratique. Et puis, madame, vous savez, les recherches empiriques l'ont démontré, hein, ni la démocratie, ni la dictature ne constituent une garantie pour la bonne gouvernance. On connaît des régimes plus démocratiques que d'autres, mais qui ne sont pas efficaces dans la fourniture des biens et services publics. Si nous prenons le cas de la Libye sous Kadhafi, c'était la dictature, mais l'État libyen était mieux gouverné et la Libye présentait des indicateurs de développement supérieurs même aux États européens, même de l'Europe occidentale. Aujourd'hui, quand nous prenons un pays comme le Rwanda, là, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, quel est le pays qui est plus avancé démocratiquement? C'est la RDC. Mais en termes d'indicateurs de gouvernance, de développement, nous sommes très loin par rapport au Rwanda. Donc je pense que nous devons nous ressaisir. Nos dirigeants doivent quand même prendre conscience du fait que quand on est au pouvoir, c'est pour rendre service à la population. C'est pour servir la population. Et si cette population n'est pas d'accord, elle doit avoir son droit, elle doit jouir de son droit de pouvoir revendiquer, de pouvoir manifester et pourquoi pas mettre hors d'état de nuire un régime qui ne sert pas à ses intérêts. Donc aujourd'hui, ce que font les militaires à travers l'Afrique, ça doit interpeller tous nos dirigeants politiques. Mais un coup d'État peut apporter du bonheur tout comme du malheur à la population. Donc il faudra que nous puissions vraiment, comme je disais, nous ressaisir, que nous regardons dans la bonne direction pour que nos institutions fonctionnent correctement. Quand vous êtes chef élu président de la République, quand vous êtes ministre, c'est pour rendre service aux citoyens.
Professeur Chilombay, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, dans la province du Sud Kivu.
Eric Banyanga, à partir de Bukavu. Personnellement, je trouve que le défi majeur de l'Union africaine reste la mauvaise gouvernance qui caractérise la plupart des pays membres. Laquelle mauvaise gouvernance entraîne aussi les perturbations constitutionnelles par des coups d'État qui naissent des insatisfactions de gouverner. L'Union africaine se fait sentir ainsi comme un conglomérat de chefs d'État qui se protègent mutuellement au lieu d'être une organisation qui viserait l'unité et l'autonomisation des peuples africains.
Professeur Chilombay, cet auditeur de Bukavu rejoint un peu l'analyse du prof Maloukissa de tout à l'heure par rapport aux coups d'État dans certains pays africains.
D'abord, madame, il faut dire que rien ne justifie un coup d'État, hein, et que les militaires qui reviennent au pouvoir par cette voie-là, c'est eux qui ont dirigé en grande partie sur une très longue période l'Afrique, et rien ne justifie qu'en revenant au pouvoir, ils pourraient apporter des solutions aux problèmes sans décrier. Nous avons des problèmes qui sont conjoncturels, nous avons des problèmes qui sont conjoncturels, nous avons des problèmes qui sont structurels. Mais notre crise, la crise africaine, elle est ce manque de courage des pères africains, de ceux qui nous dirigent, qui ne veulent pas décider d'une Afrique qui gouvernerait l'Afrique. Je ne suis pas partisan des États-Unis d'Afrique, ça ne viendra pas. Mais lorsqu'on parle de la santé, des finances, des banques, de l'agenda 2063 et autres, tout cela ne trouve aucune assise dans l'acte constitutif de l'Union africaine. C'est des solutions de colmatage et de contournement. Cela implique que si on dit bilan, par exemple, de la présidence congolaise, et on dit que cette présidence n'a résolu aucune crise qui a des coups d'État, c'est comme si on veut dire qu'il y a eu une présidence d'un État africain qui a pu résoudre des crises. Sinon, nous, la RDC, après autant de présidences de l'Union africaine, on ne serait pas en crise. Mais cette crise qui est au Congo a traversé plusieurs présidences, la crise qui est au Rwanda et en Ouganda, les crises de démocratie d'ailleurs, qui font que les coups d'État ne sont que des conséquences et non des causes, ne sont pas nés avec la présidence congolaise. C'est des crises endémiques qui se sont cristallisées. On ne peut pas les justifier même par du fait de l'absence des élections démocratiques au Burkina Faso. Il y en a eu une qui n'a été contestée par personne, mais le coup d'État est quand même intervenu. Tout cela implique qu'il faut se doter du courage et que lorsque on décide de faire quelque chose, que l'on fasse parce qu'on n'imite pas les autres. J'ai donné l'exemple de la ZLECAF ici. Il faut être magicien, peut-être pour le dire, mais moi je ne pense pas que ça demande magie. Ça demande de comprendre qu'il n'y a pas ZLECAF en Afrique, parce que nous avons pris une dénomination et tenté de la prendre pour une réalité. Comment on peut être arrivé à la ZLECAF, là où les frontières sont hermétiquement fermées, je le rappelais. Ici, il faut dire que le bilan de la présidence congolaise de l'Union africaine est un bilan largement positif.
Alors, on n'est plus sur le bilan de la RDC, professeur Chilumbayi. Les défis restent nombreux et pressants. Ce sont les propos du président Macky Sall. Qu'est-ce qu'on peut attendre de sa présidence à la tête de l'Union africaine? Vous pensez qu'il sera facile pour lui de relever tous les défis qu'il a énumérés, notamment la paix et la sécurité, des changements anticonstitutionnels, la sécurité alimentaire?
Non. Je ne peux rien attendre de tout cela parce que dans les objectifs de l'Union africaine, tout cela est inscrit comme des slogans. Mais dans la faisabilité, aucun contenu n'est donné à cela. La paix, le maintien de la paix, n'est pas du tout dans les prérogatives de l'Union africaine. Je vous ai dit que la spécificité de l'intervention qui est prônée se limite aux quelques circonstances graves. Limitativement énumérés, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Et comment l'on attendrait d'une organisation dont l'acte constitutif ne fait pas clairement allusion au maintien de la paix et des modalités pratiques d'y parvenir, que l'on attende d'une telle organisation le maintien de la paix? C'est un leurre.
Merci.
On n'attendra pas de l'Union africaine de résoudre les problèmes de santé, parce qu'il n'y a aucune structuration prévue pour cela. C'est des solutions de contournement, comme je le dis.
Merci, professeur. On retient que ce sont des slogans.
La vraie attente qu'on peut avoir africaine, moi, j'ai dit que c'est une organisation de transition. Après les guerres froides, nous n'avons pas pris du temps pour nous concentrer et proposer quelque chose de solide à l'Afrique. Ça, c'était un raccourci. C'est une organisation de transition. Il faut que l'Afrique se conduise vers une organisation efficace qui représenterait ce que signifient les besoins et ce qu'attendent les Africains. L'Union africaine, non.
Professeur Dadi Salé, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga.
Je m'appelle Dédoné Bangdéfit, hein. J'interviens depuis la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. De prime abord, je suis tenté de féliciter le président sortant de l'Union africaine, car en dépit des défis auxquels il a fait face, notamment la pandémie du coronavirus, et les changements anticonstitutionnels au sommet des pays, a néanmoins montré une bonne gouvernance à la tête de cette organisation panafricaine dans les secteurs d'intégration régionale, par exemple. Cependant, pour les contraintes qui restent à relever, son successeur a tout intérêt de mettre sur pied une commission pour travailler d'arrache-pied, question de mettre une fois pour toutes fin à cet arsenal de coups d'État qui font déjà couler beaucoup d'encre et de salive dans les continents, lesquels coups sont orchestrés non seulement par les enfants de la maison, mais aussi et surtout en connivence avec les impérialistes colonisateurs qui ne jurent qu'à la déstabilisation des pays africains. Merci.
Professeur Dadi Salé, je vais vous demander d'être bref, s'il vous plaît, parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Comment vous réagissez au propos de Dieudonné qui nous a appelé depuis Lubumbashi?
Je comprends que M. Dieudonné félicite probablement les 10%, et nous sommes d'accord, mais malheureusement, les 90%, donc le bilan est largement négatif. Au fond, je pense qu'on a parlé du professeur Jean-Claude Bain, qui a dit qu'il a dit que c'était bien positif. Je pense que non, effectivement, parce que l'échec du président précédent de l'Union africaine ne peut pas justifier l'échec effectivement des actuels présidents et des présidents bien quand ils disent que les objectifs restent des slogans. Mais c'est ce qu'on reproche. Quand tu prends effectivement des commandes, pourquoi tu laisses que des slogans. Donc, nous pensons que les 54 membres de l'Union africaine devaient prendre le courage et restructurer cette organisation. Il faut que ce peuple, naturellement, des 54 États, soit capable d'appliquer notre philosophie, c'est-à-dire celui de Guémé, oui, ok, là, ça va, quel est là, on doit se prendre en charge, comme le professeur Jean-Claude l'a dit, le peuple mérite un peu ses dirigeants. C'est un peu comme si le professeur Jean-Claude nous révoltait. Parce qu'on ne peut pas accepter de mériter des dirigeants qui ne travaillent pas en grande partie pour le peuple, mais pour entre guillemets ce club-là. Donc, je pense que tant qu'ils applaudissent, ça ne servira à rien. On a applaudi des importants félicitations, mais on est très loin du développement de l'Afrique. C'est que il faudra des restructurations majeures. Il faudra des leaders capables de prendre des décisions majeures et avoir des ambitions pour la qu'on veut. C'est Afrique un peu majeur et grand. Si le professeur ne croit pas aux États-Unis d'Afrique, je le comprends. C'est parce qu'il analyse les éléments actuels. Il faudra qu'il se projette dans le futur. Dans le futur, ceux qui ne seront pas grands, comme l'Union européenne, etc., eh ben, vont disparaître. Elles ne seront jamais fortes. Donc, nous devons être conséquents. Nous
professeur,
il faudra qu'on soit conséquents.
Professeur Dadi Salé, ça sera votre conclusion. Que faire pour relever les défis qui restent nombreux et pressants des pays africains?
Nous demandons effectivement à Macky Sall, lui, de prendre le courage, n'est-ce pas, d'être un leader qui peut travailler pour son peuple et de restructurer, d'avoir des ambitions assez fortes, de permettre à ceux qui tout ça, de permettre à ceux qui le peuple ne révolté. Parce que si on comprend ce qui est dit, le peuple va commencer effectivement à se révolter parce qu'on a, on ne peut pas mériter des dirigeants qui ne nous font pas avancer. Donc, M. Macky Sall, faites votre travail, sinon démissionnez. Donnez cela à un autre président qui sera un peu plus courageux pour le peuple.
Merci, professeur Dadi Salé. Professeur Albert Maloukissa, votre conclusion aussi, qu'est-ce qu'il faut pour relever tous ces défis qui attendent l'Union africaine?
Madame, je crois que mes deux autres collègues l'ont relevé aussi. Hein. Je pense que c'est fondamental que nos dirigeants africains puissent définir un agenda commun dans le bien-être de nos populations, de nos peuples. Au départ, il faut commencer par résoudre les conflits qui rongent, qui minent tous nos États. Quand il y a des coups d'État à gauche, à droite, mais ces coups d'État-là, ces insurrections, ces mouvements armés, les conflits armés, c'est alimenté aussi par les voisins. Alors, à partir du moment où les Africains eux-mêmes sont divisés, l'étranger en profite aussi. Et d'autres pays africains en profitent. Donc, ce n'est pas bon qu'on continue à évoluer toujours dans ces climats des conflits qui nuisent à la gouvernance. Qu'il y ait Macky Sall ou non, qu'il y ait un autre chef d'État ou non, comme le professeur Chilumba il a si bien dit, et le professeur Salé, nous allons continuer avec les mêmes véhicules en panne. Nous allons continuer avec un appareil qui n'est pas propice pour nous aider à pouvoir aller de l'avant. Sans financement, sans capacité d'autofinancement, l'Union africaine ne vaut rien et ne vaudra rien.
Merci, professeur Albert Maloukissa. Professeur Jean-Claude Tulumbayi, en 30 secondes, il faut des réformes profondes au sein de l'Union africaine.
D'abord, au sein de nos États, il faut faire de tous nos États réellement des États pour faire de l'Union africaine une organisation soit interétatique, soit supranationale. Et il faut réformer nos structures de développement interne d'abord, pour tenter d'équilibrer le niveau de vie afin de penser Afrique. Si on pose la question de savoir à quand l'Afrique, il faut d'abord poser celle de savoir à quand l'État en Afrique. Il faut que l'État existe d'abord dans la plupart de nos sociétés. Nous sommes encore dans des situations intergroupales, dans des situations interraciales. Il n'y a pas encore d'État dans le sens plein de termes. C'est pourquoi l'Union africaine devrait commencer par là. Ce cadre de concertation qui existe, il est suffisant pour les besoins qui sont les nôtres, ceux de voir nos chefs d'État se rencontrer, échanger sur certaines ambitions, mais pas pour résoudre des problèmes, parce que rien de tel n'est inscrit dans l'acte constitutif de l'Union africaine. Maintenant, s'il faut trouver des solutions pour l'Afrique, il faut, je dis bien, créer une organisation à même d'affronter ces problèmes qui sont des défis énormes que l'Union africaine ne pourrait jamais aborder, même si elle totalisait 100 ans.
Merci, professeur Jean-Claude Tshilumbaï. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui a réalisé cette émission, supervisée par Martin Sebou-Jangoui. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.